Bonjour, ça va toujours en 2019 ? C'est encore moi, Vladimir Cagnolari, qui vous parle d'Abidjan. Abidjan dans 50 ans. Abidjan en 2069. J'ai eu de la chance, comme j'ai été téléchargé dans le futur, on m'a dispensé de la paperasse pour entrer dans le pays. Mais en 2069, croyez-moi, c'est pas simple d'avoir un visa pour l'Afrique. L'ordre du monde a basculé, et puis depuis que les États-Unis d'Afrique sont devenus une réalité, le continent pèse lourd, et c'est le reste du monde qui désormais essaye de venir s'installer ici. La roue tourne, et c'est pas mauvais.
Ce podcast vous est présenté par Greentooth. Greentooth, l'oreillette qui vous permet de comprendre même les animaux.
Greentooth.
Non, c'était bien, mais est-ce qu'on a dit qu'on grognait ? Faut chanter. Ici, l'afrofuturisme, c'est une idée d'avant-avant, un mouvement dont parlent encore certains vieux. Bon, moi j'ai un peu triché, j'ai l'âge que j'avais en 2019, mais comme je vis 50 ans plus tard, je me rappelle bien des choses d'avant. Alors quand on me pose la question, je reparle de cette petite recherche que j'avais menée en 2019 avec l'aide de Simon de Creuse et Sinatou Saka. Je vous ai parlé du succès de Black Panther, des penseurs aussi qui avaient préparé le terrain de l'afrofuturisme. Et aujourd'hui, je vais vous parler de certains artistes afro-américains qui en sont des piliers. Et si je fouille bien dans ma mémoire, la toute première fois que j'avais entendu parler d'eux, c'était chez une amie chanteuse.
Hello, quatrième étage.
Merci. Elle s'appelle Mélissa Lavo, née au Canada de parents haïtiens, et c'est elle qui m'avait raconté sa passion pour une auteure afro-américaine qui s'est illustrée dans les romans de science-fiction. Son nom, Octavia Butler, considérée comme une figure majeure de l'afrofuturisme. Alors je suis retourné chez Mélissa pour qu'elle m'en dise un peu plus.
Hello Mélissa.
Ça va ?
Ça va et toi, tu m'as entendu ou quoi ?
Non.
L'escalier ?
Oui. C'est un vieil immeuble.
Mélissa Lavo aime les plantes, les tisanes, les proverbes qui émaillent les conversations téléphoniques de sa mère, les uns, c'est-à-dire en créole haïtien, les potins qu'on se raconte entre copines, mais aussi les tarots, la nourriture de son enfance, sa guitare et enfin, bien sûr, la science-fiction. Mélissa, si je te dis afrofuturisme, qu'est-ce que tu me dis ?
In the future, we exist.
Dans le futur, on existe. Si on traduit en français, ça veut dire quoi pour toi ?
Pour moi, c'est de penser à tous les films qui parlent du futur, ou même quand les gens ils commencent à penser, à concevoir de l'avenir, ils le conçoivent avec des personnes racisées en tête.
Quand tu dis racisées, c'est-à-dire ?
Des personnes non blanches.
D'accord.
Les gens à qui on pense quand on pense étranger.
Ici, ouais.
Ici, par exemple. Pour moi, c'est un terme qui m'a... Genre, juste la culture de l'afrofuturisme m'a beaucoup aidée personnellement parce que moi, je suis déjà une grande fan de science-fiction. Pour très longtemps, je pensais que la science-fiction, c'était un truc de garçon blanc parce qu'il n'y avait que des garçons blancs qui le lisaient.
Et qui écrivaient même souvent.
Et qui écrivaient. Mais... ce qui est vachement bien, c'est que moi, je me suis branchée assez tôt, quand j'étais jeune, à la série Star Trek. Et Gene Roddenberry, qui a créé cette série, est un réalisateur et un scénariste juif américain qui voulait avoir un casting divers, inclusif. Et en fait, c'est la première série où il y a une femme noire qui n'est pas une bonne ou qui n'est pas une prostituée à la télévision. Et l'actrice, elle a même quitté cette série. Et du coup, il y a Martin Luther King Jr., qui était grand fan de Star Trek, lui a supplié de ne pas quitter la série. Et c'est là qu'elle est retournée.
Il a fallu que ce soit Martin Luther King qui vienne lui réclamer de rester.
Et tu vois que Martin Luther King, lui aussi, était afrofuturiste, avant même que le terme il existe. Parce que si tu penses au discours, son discours fameux, « I have a dream », j'ai un rêve. Tu penses à l'avenir, tu conçois de l'avenir avec toi en tête. Pas que toi en tête, mais qu'il soit un avenir inclusif. Et du coup, surtout, c'est assez marrant parce que quand tu lis... Et moi, je lis énormément ou je regarde énormément de littérature, de médias dystopiques.
Dystopique, traduction ?
Un futur qui est le contraire d'une utopie, qui ça veut dire que c'est la fin, c'est pas la fin du monde, mais c'est genre le worst case scenario, le pire cas du futur, genre quelque chose qui a été poussé à l'excès. Et ce qui est assez marrant, par exemple, c'est juste les aliens qui sont des grands mollusques verts versus les blancs.
Les blancs étant censés représenter les humains.
Ils ont censé avoir besoin de la planète Terre, ce qui est assez bizarre. Donc, c'est assez cool. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu Independence Day et puis Will Smith sauve la Terre. Et t'es comme, ah, d'accord. C'est assez nouveau. C'est quand même, c'était pas commun avant d'avoir un héros noir qui sauve la planète. Et du coup, pour retourner à Star Trek, il y avait Sulu, qui est un des ingénieurs, il y a un Écossais, il y a Uhura, et du coup, c'est un casting divers, et c'est la première fois qu'on voit ça. Et Gene Roddenberry a fait plusieurs séries Star Trek à travers les années, sur comme 40 ans, là, il est bien mort. Gene Roddenberry a fait énormément de séries, et à chaque fois que tu vois une série Star Trek, il y a toujours un casting inclusif. Il y a toujours des personnes, par exemple, dans Next Generation, il y a Geordi qui est aveugle, il y a des... Vraiment, c'est hyper intéressant, et pas que au niveau des espèces, il n'y a pas que des humains, etc., mais vraiment au niveau de différentes cultures, différentes habiletés, différentes orientations sexuelles, par exemple, ça a toujours été hyper intéressant dans les séries de Star Trek de Gene Roddenberry. Pour moi, c'est un peu le début de mon obsession avec la science-fiction. Et c'est une des premières fois où je me suis dit, ah, d'accord, moi aussi, dans un futur où il y aura plein de technologies, etc., moi, je peux exister. C'est pas que un truc où c'est les Blancs qui se battent contre les aliens. C'est vraiment bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre, en fait, qu'il y a autant de séries que quand j'ai grandi où je me voyais pas du tout.
Suhura, your last subspace log contained an error in the frequencies column.
Mr. Spock, sometimes I think if I hear that word frequency once more, I'll cry.
Cry?
I was just trying to start a conversation.
La dernière fois que je suis venu ici, et c'est bien d'ailleurs pour ça que je suis venu te voir, c'est parce que c'est toi qui, la première, m'a parlé d'Octavia Butler, hein, qui est donc une auteure afro-américaine. J'aimerais que tu nous dises un peu plus qui elle était et pourquoi elle a compté pour toi.
Ben, c'est une autrice. C'est une autrice des années 70-80 qui a écrit énormément de livres de science-fiction hyper importants, qui a rapporté énormément de prix, mais qui n'a... Je trouve qu'elle pourrait être encore plus reconnue aujourd'hui. Elle a influencé énormément d'auteurs. Donc c'est surprenant. Du coup, là, je regarde les livres. Je regarde Kindred, qui est le premier livre que j'ai lu d'Octavia Butler, qui... Justement, elle imagine qu'une femme, elle trouve une manière de retourner dans le passé. Donc, des fois, la science-fiction, c'est pas seulement le futur, mais des fois, c'est le passé.
En le réinventant ou en le revisitant.
En le revisitant. Elle prend une jeune femme qui retourne dans le passé, à l'époque de l'esclavage, pour pouvoir changer les choses, en fait, et qui se rend compte horrifiée qu'en fait, si elle change tout, si elle permet à ses ancêtres de s'évader, en fait, elle sera pas née. Parce que ses ancêtres, la destinée de ses ancêtres est... inévitablement liée à celle des maîtres, parce que c'est la même famille. Les viols étaient assez communs, et du coup, la plupart des Afro-Américains sont métis. Dans un autre bouquin, d'une autre série, la Terre, elle prend fin, et en fait, il y a des aliens qui arrivent pour récupérer certains humains, les arrangent, et ils disent « Ah, mais vous avez un cancer, vous allez mourir, mais on vous a arrangé et on vous a fusionné, en fait, avec notre espèce, et vous pourrez créer une nouvelle espèce, et on va vous reposer dans notre planète, et vous allez vous créer comme ça, recréer comme ça. » Genre, c'est juste... c'est des aliens colons qui passent de planète en planète, voient une planète est déficiente, récupèrent quelques spécimens, les mélangent à d'autres spécimens, comme si c'était des vaches et tout, créent une autre espèce, et puis les déposent ailleurs. Du coup, ça reparle de l'histoire de la colonisation, de forcer une intégration culturelle aux gens, parce que du coup, cette personne qui a été... Ils ont changé son code ADN carrément, ils ont fait des traitements, ils la mettent dans une famille de leur espèce pour qu'elle s'initie un peu à eux, et après ça, elle doit aider quelqu'un. Et genre, c'est vraiment, genre... Moi, je revoyais des histoires d'esclavage où, genre, les esclaves qui viennent, par exemple, du Nigeria, doivent apprendre à recréer des plats français, mais avec des ingrédients venant des tropiques. Pour moi, ça me parlait vachement. Il y avait un autre qui parle vraiment de magie, et ça m'a beaucoup rappelé des Antilles, parce que, et de l'Amérique du Sud en général. Et dans la littérature des Amériques, moi je dirais afro-américaine, mais aussi d'Amérique centrale et latino-américaine, il y a ce truc de réalisme, magical realism.
C'est quand la magie s'invite dans le réel, en fait.
La magie s'invite dans le récit, mais de manière très subtile, comme si c'était complètement normal. Il n'y a pas genre « Oh mon Dieu, il y a un esprit qui arrive !»
Alors évidemment, après avoir causé avec Mélissa Laveau, je me suis procuré un des livres d'Octavia Butler, qui a commencé à publier dans les années 70. 1970, hein, vous m'entendez. Des livres, elle en a écrit beaucoup, mais tous n'ont pas été traduits en français. Alors j'ai opté pour le seul qui était disponible chez mon libraire, un roman intitulé « Novice ».
Celui qui n'est pas en capacité de se projeter dans le futur ne s'y trouvera pas.
La novice, c'est cette gamine qui a l'air d'avoir 10 ans et qui se réveille un jour atrocement blessée dans l'obscurité d'une grotte, seule, angoissée. Mais son corps, elle s'en rend compte peu à peu, a la faculté de se réparer tout seul, de se régénérer. Tout ça, bien sûr, la déboussole, car elle n'a plus aucune idée de qui elle est, ni même de comment elle s'appelle. Elle va devoir le découvrir et comprendre pourquoi, comme les vampires, elle se nourrit de sang. Retrouvant ses semblables, elle va devoir réapprendre à être une Ina, cette société dont les membres vivent depuis des siècles avec leurs symbiotes, des humains qui ne demandent qu'à être mordus. Oui, parce que la morsure des Ina est douce, jouissive, même presque érotique pour les humains qui s'attachent à leur Ina et peuvent ainsi vivre jusqu'à 200 ans. La novice, c'est donc cette jeune fille de 53 ans, ce qui est jeune pour une Ina, qui, ayant renoué avec ses pères, doit deviner pourquoi sa propre famille a été assassinée. Shori, puisque c'est son nom, est noire. Ses parents ont mélangé ses gènes d'Ina avec ceux d'une humaine, noire, et c'est ainsi, grâce à sa mélanine, qu'elle peut vivre le jour quand tous les autres Ina dorment et deviennent alors vulnérables. Chez les Ina, dont les doyens ont traversé des siècles, hein, oui, certains ont plus de 600 ans, eh bien, parmi eux, certains veulent sa perte et digèrent mal cette atteinte à la pureté de leur race. Pour eux, Shori la métisse est une menace. Novice est le dernier roman publié du vivant d'Octavia Butler, une romancière fascinante, maintes fois primée, qui en 1998, pour la petite histoire, imaginait un candidat à la présidentielle qui se faisait élire grâce au contrôle de la réalité virtuelle. Son slogan ? Make America Great Again. Ça ne s'invente pas, enfin bien si ça s'invente en fait. En tout cas, c'est bien 20 ans auparavant de l'anticipation. Butler était inquiète de la course au tripatouillage génétique à laquelle se livrent les scientifiques. Et puis surtout, elle faisait place dans les futurs qu'elle imaginait à toute l'humanité. C'est-à-dire aux femmes et aux hommes dans leur diversité. Abidjan, 2069. Dimanche dernier, j'étais du côté du plateau, aujourd'hui un quartier de loisirs et de détente, mais aussi de foi. Bien sûr, il y a toujours la grande mosquée et puis la cathédrale Saint-Jean, qui depuis 10 ans est devenue nomade. Oui, elle avait déjà l'allure d'un vaisseau spatial dans les années 80 quand elle a été construite, mais depuis 2055, elle est devenue un vrai vaisseau. Chaque dimanche, elle peut ainsi se déplacer dans plusieurs villes du pays et revenir à son parking habituel au sommet du plateau. Et puis, vous le savez peut-être, à Abidjan, il y a le fameux immeuble pyramide, ça, je vous en reparlerai. Mais à votre époque, en 2019, il était abandonné, et puis il semblait promis à une destruction prochaine. Quelques années plus tard, il a été racheté et rénové. Et c'est là que se sont installés les disciples de Sun Ra, un jazzman visionnaire du siècle dernier et pionnier de ce qu'on a appelé l'afrofuturisme. Tous les dimanches, donc, ses disciples organisent des cérémonies où le jazz, la danse et les forces cosmiques résonnent. Et on y entend toujours, en ouverture, le morceau culte de Sun Ra, Space is the place, l'espace, c'est l'endroit. Lorsque débuta le premier concert donné par l'Intergalactic Research Orchestra à Saint-Paul-de-Vence, le public resta stupéfait devant un spectacle qui excédait en tout point ce que l'on pouvait imaginer. Un concert de l'orchestra, c'est à la fois une sorte de rite magique, une grande fête échevelée, un tourbillon de lumière et de son, un défoulement ludique qui obéit à de grandes lignes de force sous-jacentes et ne sombre jamais dans l'incohérence ou la vulgarité. Des films sont projetés derrière les musiciens. Vue de New York ou de Chicago, scènes de rue, répétitions de l'orchestre, fusées partant pour la lune, dieux égyptiens ou guerriers africains emplumés. Les lumières se tamisent ou illuminent la scène tandis que Sun Ra lance des éclairs, que les danseuses brandissent des emblèmes ou des objets symboliques. Puis, tout à coup, un musicien saute à pieds joints au-dessus de la boule de verre lumineuse censée représenter quelques instants auparavant la toute-puissance du soleil. J'ai retrouvé ces impressions dans le Dictionnaire amoureux du jazz de Patrice Blanc-Francard, un bréviaire indispensable. Vous l'avez compris, Sun Ra n'était pas un petit personnage. Né en 1914 aux États-Unis, dans l'Alabama où la ségrégation était la plus rude et sauvage, le jeune Herman Blount, oui c'est son nom à l'état civil, devient très tôt musicien. délaisse les études et préfère s'enfermer chez ses parents où défilent d'autres amis musiciens. C'est qu'en 1936, il a à l'époque 22 ans, il vit une expérience mystique, une expérience du troisième type. Il affirme avoir été amené sur Saturne et y avoir rencontré les autochtones qui y habitent. Ceci l'aurait sommé d'arrêter ses études pour se consacrer à la musique, oui car la sienne est entendue dans tout le cosmos et a le pouvoir d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Chaos. Franchement, pour expliquer à ses parents qu'on arrête les études, on pouvait pas trouver plus créatif comme excuse. En tout cas, lui qu'on surnomme Sonny se fera appeler Sonra, en référence à Ré, le dieu soleil de l'Égypte ancienne. La Seconde Guerre mondiale éclate, il a à l'époque 25 ans, et refuse de se faire enrôler. Du coup, la sanction tombe, il passe par la case prison. Et il en ressort abîmé. Alors il quitte le Sud et s'installe à Chicago. C'est là qu'il démarre l'aventure de l'orchestre. Pour ne pas se faire enfermer dans les cases manichéennes d'une Amérique en noir et blanc, Sonra décide de se forger sa propre histoire, sa propre identité. Les planètes de notre système solaire demeurent inviolées, inexplorées, donc on peut tout y reconstruire. Comme Marcus Garvey prêchant pour le retour en Afrique des Noirs du Nouveau Monde, Sonra, lui, dit avoir pour mission de préparer les Noirs à l'ère spatiale. On l'invite même à donner, en tant qu'artiste invité, un cycle de conférences à l'université de Berkeley, en Californie. Le sujet du cours, l'homme noir et le cosmos. Nous sommes en 1971, et la liste de livres qu'il donne à ses étudiants montre bien qu'il a absorbé lui-même tout un tas d'ouvrages qui parlent de l'Égypte noire, dans la droite ligne des travaux de Cheranta Diop, dont je vous parlais tantôt.
Quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique.
On lui propose alors de développer ses idées, mais cette fois-ci dans un film de fiction. Ce sera Space is the Place, sorti en 1974.
This is Jimmy Fay, Channel 5 Stone Jar, the all-black station for all black people with all the news that grooves at noon, live from Oakland, California. As you are probably aware, several local mystics have predicted a landing from space this afternoon here at this spot opposite the Sector 5 government building in the person of a black musician and thinker named Sun Ra.
Voilà un film assez fou où Sun Ra, qui s'est installé sur une autre planète avec l'orchestra, revient sur Terre, vêtu comme un pharaon pour organiser le voyage des Noirs d'Amérique vers ce nouvel Éden. Comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien, en les téléportant grâce à la puissance de sa musique. Évidemment, les barons qui tiennent les ghettos noirs ne le laisseront pas faire, pas plus que ceux qui servent les intérêts de la classe dominante américaine. La NASA même essaye de le kidnapper pour qu'il révèle ses secrets. Bref, vous l'avez compris, voilà un film fou, mais qui contient tous les possibles et surtout l'immense liberté de se définir, de s'inventer, dont Sonra faisait preuve dans ses discours comme dans sa musique, lui qui imaginait sur ses claviers toutes sortes de sons les plus inouïs, ou bien qui demandait à ses musiciens de prendre un instrument qu'ils ne connaissaient pas pour jouer ensemble. C'est vrai ça, comment pourrions-nous inventer quelque chose de nouveau si nous avons peur de l'inconnu ? Et cette démarche ne pouvait que plaire à Mawena Yerwesi, je vous l'avais déjà présenté, qui en 2019 coordonnait la plateforme Blacks to the Future. Sina Tusaka l'avait rencontré, et si Mawena Yerwesi ne voulait surtout pas définir l'afrofuturisme pour ne pas le figer, eh bien elle y voyait tout de même trois principes fondamentaux. Voici le premier.
Fiction. Fiction étant pour moi un outil qui permet de travailler notre rapport au réel. Au-delà de cette habitude qu'on a à reconstituer des couples d'opposition comme ça, des dichotomies qui sont magie, technologie, ou virtuel, surnaturel, ou histoire avec un grand H, récit. Et là, je reviens aussi à cette idée de Sun Ra. Sun Ra, c'est pas un personnage déconnant. C'est un personnage qui part du principe, et c'est ce qu'il dit, dans Space is the Place, à un moment donné, il parle voilà, des jeunes... qui doivent avoir peut-être entre 16 et 20 ans. You don't exist, vous n'existez pas, vous êtes des mythes, vous comme moi. Vous n'existez pas dans cette société, vous n'avez pas de droits. Et en fait, c'est là que vient toute l'idée aussi de la métaphore et de la mythologie afrofuturiste. C'est pas juste une mythologie où il s'agit de fuir dans un idéal et à nouveau ce rapport à l'utopie. Non, c'est quelque chose de très concret. Et de dire que, bah, à partir du moment où on identifie ce qu'est le réel, donc le réel en tant que citoyen, c'est-à-dire pouvoir voter, pouvoir donner son avis, avoir une capacité de consommation à tel quota, blablabla. C'est pas nous qui avons décidé des critères, mais si les critères sont ceux-ci, et qu'en fait tu n'as pas accès à ces critères, ça veut donc dire que tu n'as pas accès à cette réalité. C'est à peu près aussi simple que ça. Et c'est ça le jeu aussi de l'afrofuturisme et de son rapport à la fiction constante.
La fiction employée pour ausculter la réalité, la retourner et essayer de la changer. C'est d'ailleurs aussi ce qu'aimait faire George Clinton, un des rois de la musique funk. George Clinton était fan de Star Trek lui aussi, et certainement inspiré par les délires de Sun Ra. Sun Ra, devant la Maison Blanche, se demandait où était la Maison Noire, et George Clinton lui prophétisait déjà dans une chanson de 1975 un couple afro-américain à la Maison Blanche.
I'm Barack Obama, and I approve this message.
Avec sa pure funk, sa P-funk comme il l'appelait, il comptait bien funkifier les planètes. Et d'ailleurs, ses concerts avec son groupe Parliament ou l'autre groupe qu'il avait, Funkadelic, quand il les jouait dans les stades, eh bien ça commençait souvent par la descente d'un ovni avec forces effets pyrotechniques. Contre le noir et blanc, c'était le futur en funky color.
Of specially designed afro knots capable of funkatizing galaxies.
Voilà, après cette petite pause funk, ça fait toujours du bien, on retrouve Mawena Yewesi qui évoque ce qui, à ses yeux, est le second pilier de l'afrofuturisme.
Prospective. Ce qui m'intéresse avec la prospective à nouveau, c'est que la prospective, c'est pas juste, avoir une vision un peu inspirée de. Demain, nous serons sur une planète violette avec des fleurs qui feront 7 mètres de haut et des vaches sur des roues. Non. La prospective, c'est une analyse possible ou de scénarios possibles du futur à partir d'éléments du présent. Donc la prospective, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la gestion de risque, mais aussi dans les rapports environnementaux. Et c'est un calcul assez simple. On a consommé tant de quotas d'eau en 100 ans, il est fort probable que dans 100 ans, il n'y ait plus d'eau. Peut-être qu'il faut qu'on change notre rapport de consommation à l'eau. Donc la prospective, c'est vraiment cette analyse-là.
Et toi, Mélissa, tu en dis quoi ?
Pour moi, c'est hyper intéressant de voir comment il y a énormément d'auteurs de fiction spéculative, d'afrofuturisme, de science-fiction, qui arrivent à se mettre en tête qu'est-ce qui arriverait si on poussait ça à l'extrême. Ce petit truc-là en société, si ça s'était poussé à l'extrême, qu'est-ce qui arriverait ? Et je trouve que ça, c'est assez important parce qu'on n'y réfléchit pas. Mais en fait, c'est comme, par exemple, avec l'Holocauste. Les gens, ils se disaient « Ah, je ne suis pas concernée, blablabla. » Et c'est genre des petits pas vers la désensibilisation des gens et des petits pas qui font en sorte qu'ils ne se rendent pas compte, mais il y a un truc horrible. On fait tous partie d'un truc horrible. Là, on fait partie d'un truc horrible qui est on est en train de détruire la planète et dans 50 ans, on n'arrivera plus à respirer. Et du coup, il y a énormément de super romans et de livres qui parlent de... Ce sont des fictions dystopiques où... Par exemple, je pense à celui avec le train transsibérien qui fait le tour de la planète et puis en première classe, il y a les gens aisés, ben voilà, en dernière classe, il y a tous les pauvres. Et du coup, c'est marrant comme même dans quand tu reposes l'humanité sur un train, il y a même une hiérarchie qui se construit et les gens qui sont en haut de l'échelle, ils défendent de manière très violente leur position privilégiée, mais très violente.
Dans ce train, nous tenons lieu de demeure. Une seule chose se dresse entre la chaleur de nos cœurs et les morsures du froid. Des vêtements, des boucliers, aucunement l'ordre. L'ordre est la barrière qui nous préserve du gel fatal. Le devoir de chacun dans ce train de la vie est de remplir le rôle qui lui est échu. Nous sommes tous tenus d'occuper la place qui nous était prédestinée.
Après ça, il y a un super livre de Nellie Crawford qui s'appelle c'est Phoenix, The Book of Phoenix. Et The Book of Phoenix parle d'une femme qui est immortelle. En fait, elle est conçue dans un laboratoire et tout. On dirait qu'elle est une femme de 40 ans. Et du coup, elle se rend compte qu'elle, en fait, elle chauffe très rapidement et tout. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est une bombe humaine. Donc, elle peut exploser. Quand elle est vraiment, vraiment fâchée, elle peut exploser. Et puis, elle renaît. Et c'est marrant parce que c'est un truc qui est entre Henrietta Lacks, qui était une vraie femme noire que la science elle profite encore de ses cellules, parce qu'ils ont utilisé ses cellules immortelles, du coup, parce qu'elle avait un cancer. Ces cellules qui se démultipliaient de manière... ils ont vendu ces cellules pour faire des tests pour presque toutes les maladies dans le monde, parce que c'est les cellules idéales, elles ne meurent jamais. Donc tu peux faire des tests comme tu veux... tellement que les laboratoires ont été affectés par ces cellules. Ces cellules ont même été dans l'espace. Avec les cellules de Henrietta Lacks, pourrait faire le tour de la planète plusieurs fois, par exemple. C'est un truc incroyable. Et ça, c'est une vraie histoire. Et ça se retrouve dans le livre de The Book of Phoenix, où c'est une femme qui est immortelle. En même temps, il y a aussi cette histoire très microscopique, mais aussi générale, d'une femme qui arrive vers la ménopause. Et du coup, qui a des bouffées de chaleur et tout. Mais de transformer ça en genre, ben en fait, c'est un phénix. Elle arrive à une différente phase, une différente étape de sa vie. Elle explose, une nouvelle étape arrive. Et il y a quelque chose de super intéressant où c'est un personnage qui est vraiment à la merci des gens qui l'ont créé, qui l'ont conçu le laboratoire, qui ont contrôlé son environnement, qui se bat contre ces gens et qui, avec ce qu'ils lui ont infligé comme sort, elle arrive à en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est une vie plutôt triste, en fait. Il y a pas mal de trucs qui sont incroyables et qui sont horribles qui lui arrivent. Mais c'est quand même un destin incroyable.
Et qui pourrait être une métaphore aussi de ce que tu disais, justement, des peuples qui ont subi et qui transforment ça, pas résilience, mais en force, pour pouvoir aller de l'avant vers l'avenir, quoi. Il y a cette métaphore, là, aussi.
C'est ce que je racontais, mais je pensais que c'était plus clair que ça. D'accord. Merci de clarifier, Vlad.
Je résume, mais... la preuve, si j'ai réussi à le comprendre, c'est que c'était clair.
C'était clair.
Oui, c'était clair. En tout cas, les fictions comme celle que vient d'évoquer Mélissa Lavaux permettent de déplacer des situations d'aujourd'hui dans d'autres époques, dans d'autres mondes, pour mieux comprendre les problèmes qui nous tenaillent dans le présent. En ce sens, et c'est ce que rappelle Mawen Ayoesi, ces fictions ou ces science-fictions sont toujours politiques.
L'afrofuturisme, avant tout, pour moi, est politique. Et pour politique, j'aime beaucoup revenir à cette idée un peu classique de la politique, ça n'est rien d'autre que le vivre ensemble. La politique, ce n'est pas un programme politique et étatique. C'est d'abord comment est-ce qu'on veut vivre ensemble et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, comment est-ce qu'on va négocier ensemble, parce qu'en fait, on va être sur le même territoire. Un espace aussi basique que ça, ce qui se passe dans une classe d'école, c'est politique. Ce qui se passe dans une rame de métro, c'est politique. Tout est politique. Et de ce point de vue-là, l'afrofuturisme assume et réengage ça.
Souvent, dans ce qu'on a appelé les afrofuturismes, peut-être il faut parler au pluriel, on laisse aussi passer... c'est souvent lié au féminisme. C'est comme si c'était devenu un terrain d'expression privilégié aussi pour les idées dites féministes. Qu'est-ce que tu en dirais, toi? D'ailleurs, tu m'as parlé essentiellement d'auteurs féminins.
Ouais.
D'auteurs féminines.
Moi, je dis autrice, mais bon, pour moi, c'est... Je pense que... Je choisis ma littérature par rapport à quelque chose qui me parle. Je pense que lire une littérature qui ne prend pas en compte les combats de différentes personnes, et pas que le combat féministe, mais le combat féministe, de toute façon, il est, dans moi, quand je me considère afro-féministe, c'est un combat qui est inclusif pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est important de lire la littérature qui prend en compte différents combats, parce que je ne conçois pas de militer pour un avenir plus beau en écartant certaines personnes qui sont soi-disant indésirables. Et du coup, pour moi, c'est important de lire une littérature qui parle. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que ces littératures parlent de personnes marginalisées en général. Donc, on n'est pas un personnage secondaire, on n'est pas un personnage en plan arrière. Nous, marginalisés, je parle de manière générale dans nos sociétés, on devient des personnages principaux. Et ça, C'est pas toujours le cas dans la littérature, et c'est pas toujours le cas dans la littérature qui est notamment publiée. D'où il y a énormément de gens qui font des fanzines ou des auto-éditions et tout.
Les personnages marginalisés dans les pays occidentaux, ça peut être les femmes, ça peut être les noirs, ça peut être les gays, tout ce qu'on appelle les minorités, encore que...
Oui, toutes les minorités. Donc ça peut être les personnes trans, ça peut être les personnes qui ont un handicap, sur les personnes qui sont... Même les personnes étrangères. Genre, il y a tellement de
aujourd'hui, ça peut être le migrant.
Ça peut être le migrant, aujourd'hui. Ça, c'est une personne marginalisée.
Donc c'est toujours, en fait, aussi, ces projections vers le futur, une critique de la société actuelle telle qu'elle fonctionne, en creux. Puisqu'on s'intéresse à ceux qui... sont rejetés ou ceux auxquels on ne s'intéresse jamais dans les choses, disons, grand public ou de la culture dominante.
Ceux qui n'ont pas de voix, en fait, dans la culture dominante. Ça sert de plateforme aux personnes qui n'ont pas nécessairement une voix et qui n'ont pas nécessairement un auditoire.
Cette dimension marginale, libertaire, qui défait les catégories pour que chacun puisse les recomposer comme il veut, c'est-à-dire on peut être noir et blanc, on peut être hétéro et gay, conservateur et révolutionnaire, si ça existe. Bref, en tout cas, on peut ne pas rentrer dans les cases, être hybride, métisse. Voilà une des raisons pour lesquelles l'afrofuturisme résiste tant aux définitions générales. Oui, rappelez-vous les Rastas dont je vous ai parlé, eux aussi n'aimaient pas les ismes et les schismes. En tout cas, c'est une dimension qu'en ont retenu pas mal de jeunes artistes qui, en 2019, un demi-siècle après Sun Ra et les débuts d'Octavia Butler, s'inspirent de la perspective afro-futuriste. Je vous parlerai d'eux à ma prochaine transmission, mais là, il faut que je me taise. C'est bientôt l'heure du « Waouh ». C'est le moment de la soirée à partir duquel tout le monde doit se taire pour ne pas déranger son voisin. Le silence doit s'imposer de manière absolue. Ça fait peur, on se croirait dans des montagnes suisses.
On est Abidjan, encore d'Ivoire.
Mais non, je rigole, on est à Abidjan. Ici, on ne s'amuse pas avec le s'amusement. D'ailleurs, je dois aller prendre mon bain d'ambiance. Pardon, hein, mais là, je dois couper.